Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Cette émission est préparée par Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon, Barthélémy Gaillard et Julie Ducot, réalisée par Vivian Lecuivre. À la technique ce matin, c'est Jean Frédérics. C'est le dernier volet de notre série consacrée aux limites des politiques de préservation de la biodiversité. Nous avons parlé lundi des freins diplomatiques à une action concertée à l'heure de la COP15 biodiversité, mardi des parcs naturels dont le modèle est à revoir, hier de l'encadrement de la surpêche, aujourd'hui les contradictions européennes en matière de pollution agricole, engrais, pesticides, l'hypocrisie de l'Union européenne. C'est le sujet de Culture Monde ce matin.
Il est certain que les pesticides ont un impact sur les abeilles mellifères. Ils les affaiblissent, mais ne vont pas jusqu'à causer leur mort, qui est due à d'autres facteurs. En revanche, ces produits phytosanitaires jouent certainement un grand rôle dans la disparition des abeilles sauvages.
Nous allons mieux protéger l'environnement en réduisant l'usage et les risques liés aux pesticides de 50% et aussi abaisser notre consommation d'engrais de 20%. Pour ce faire, nous allons réformer les règlements européens en matière de pesticides pour promouvoir des techniques alternatives pour protéger les récoltes des parasites et des maladies.
Il est quand même incroyable de savoir que c'est l'industriel qui choisit l'État membre rapporteur et qui va étudier sa demande, qui élimine les études dont les résultats lui déplaisent pour ne garder que les leurs. On n'avait pas l'autorisation d'avoir les études que les industriels avaient en jouant sur le secret d'affaires.
Son histoire a déjà été plusieurs fois racontée, c'était il y a 18 ans maintenant. L'agriculteur Paul François, céréalier installé près de Ruffec en Charente, ouvre la cuve de son pulvérisateur d'herbicide pour en vérifier le niveau. L'engin n'était pas vide, des vapeurs du produit s'échappent de la cuve. Il tombe malade, 3 ans plus tard, il attaquera Monsanto en justice, le début d'une longue épopée judiciaire. Ce jeudi, après des années d'appels et de pourvois, le tribunal judiciaire de Lyon a rendu son jugement. Le géant allemand Bayer, qui a racheté Monsanto en 2018, devra verser des indemnités à l'agriculteur, 11 135 euros. Pour rappel, aux États-Unis, Monsanto avait dû verser plus de 78 millions de dollars au jardinier Dwayne Johnson. Sur le principe, cela reste une victoire. La première fois que la justice française condamne un fabricant de pesticides pour avoir rendu malade un agriculteur. Et le Lasso, l'herbicide en cause, a été interdit en 2007. Depuis, l'Union européenne tâche de se montrer exemplaire. Il y a 4 ans, elle interdisait les 3 principaux entrants chimiques responsables de la disparition des insectes. Et suivait un objectif ambitieux, celui de réduire de moitié la quantité de pesticides utilisés dans l'agriculture d'ici 2030. Pourtant, persiste un décalage aujourd'hui entre l'affichage et la pratique, des États ou des industriels trouvant des failles dans la législation. Pourquoi un enjeu aussi majeur que la disparition des espèces, certes pas aussi emblématique que le panda roux, l'éléphant ou le tigre, peine à s'imposer à l'agenda? Comment expliquer ce décalage abyssal entre les objectifs affichés par Bruxelles en matière de biodiversité et les moyens mis en œuvre pour y parvenir? Nous en parlons ce matin dans Culture Monde avec Stéphane Foucard. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service Planète Science du journal Le Monde, auteur de plusieurs livres, dont Et le monde devint silencieux, comment l'agrochimie a détruit les insectes, paru en 2019. Au Seuil. Alors vous avez bien sûr publié ce matin un article sur cette décision du tribunal de Lyon, tribunal dit judiciaire depuis la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance. Alors sans revenir sur 10 ans de procédure, ce jugement-là, est-ce qu'il fait un lien direct entre la maladie de Paul François et son utilisation du lasso, ou il jugeait des questions de forme?
Alors, c'est un jugement ambigu qui est à la fois une victoire et une défaite, comme vous l'avez rappelé. Ce que dit le tribunal, c'est que l'intoxication est avérée. Et donc, à ce titre, Bayer doit indemniser Paul François donc au terme de cette procédure de 15 ans, hein, qui est quelque chose d'inédit en France. Hein. Mais le tribunal n'a pas reconnu la chronicité des effets de cette intoxication. Et donc, tous les maux dont souffre Paul François depuis cette intoxication, donc il y a une quinzaine d'années, un peu plus, eh bien, n'ont pas été attribués à son intoxication au lasso. Et c'est seulement, finalement, l'intoxication princeps, hein, l'intoxication aiguë, qui a été reconnue comme étant liée au produit en question.
Alors, on parle là de santé des hommes et pas de biodiversité, certes, mais c'est vrai qu'il y a des procès en cours et ils concernent la santé des hommes. Et donc, peut-être à terme, ces procès auront des effets sur l'industrie en général des produits phytosanitaires. Vous écrivez, Stéphane Foucard, dans votre article ce matin, que plusieurs associations qui soutiennent l'exploitant, l'agriculteur
Paul-François.
C'est des associations qui le soutiennent, accusent aujourd'hui Bayer de continuer non seulement à écouler, à exporter le lasso, l'herbicide en cause, mais aussi à le produire. Quels indices en a-t-on? Comment Bayer pourrait aujourd'hui passer entre les mailles du filet? D'abord, précisément sur ce produit-là qui fait l'objet d'une interdiction depuis déjà 15 ans.
Alors sur ce produit-là, on n'a pas d'éléments de preuve très forts que ça continue à être produit en Europe et exporté. Hein. Mais il y a tout un enjeu ces derniers temps sur justement ces pesticides qu'on interdit dans l'Union européenne, en France et ailleurs, parce qu'ils sont trop toxiques, en général trop toxiques pour la santé humaine. Hein. Les critères environnementaux ne sont pas vraiment des critères d'interdiction toujours en Europe, on pourra y revenir tout à l'heure. Et il y a un enjeu sur les autorisations qu'on donne à ces industriels, Bayer, Syngenta ou d'autres, ou BASF, de continuer à exporter ces produits qui sont très toxiques. Et pourquoi c'est un problème éthique, d'abord, avant d'être un problème économique, c'est que souvent ces produits sont exportés vers des pays où la réglementation est extrêmement lâche quand elle existe et où les travailleurs agricoles, les exploitants, les riverains d'exploitation ne sont pas du tout protégés contre les usages qu'on fait de ces produits. Et donc, il n'est pas du tout rare que dans les pays où on exporte encore ces produits toxiques, le paraquat, tout ce genre de choses, eh bien des enfants aillent travailler sans protection sur des exploitations agricoles où ils sont exposés, alors là, beaucoup plus exposés que les consommateurs occidentaux quand ils achètent leurs fruits et légumes au supermarché. Quoi.
Et qui sont quand même exposés à terme, entre guillemets. La chaîne alimentaire fait que ces produits sont souvent exportés depuis ces pays en développement et que nous les importons.
Il y a toujours un effet retour. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment finalement les industriels viennent s'infiltrer dans les micro-failles de la réglementation pour pouvoir continuer à exporter ces produits, alors qu'en théorie, c'est interdit en France, par exemple, depuis début 2022. Mais on voit que les matières actives, c'est-à-dire les produits purs, ceux qui provoquent l'effet herbicide, insecticide ou fongicide qui est recherché, continuent à être exportés.
C'est-à-dire que la loi, et en l'occurrence pour la France, c'est la loi Egalim, interdit la vente de produits qui contiennent des pesticides, mais n'interdit pas l'exportation du produit pur.
Alors le produit formulé, exactement, c'est finalement l'appellation réglementaire, pesticide, alors que les matières actives continuent effectivement à pouvoir être exportées dans d'autres pays où elles sont reconditionnées et reformulées pour être vendues sur place.
Mais pourtant, d'habitude, dans toutes les réglementations européennes, ce sont bien les substances actives qui font l'objet d'interdiction. C'est une exception.
C'est une forme d'exception et bon, le législateur européen se penche là-dessus, mais en attendant, voilà, ça continue à partir d'Europe pour aller atterrir au Brésil, dans les pays africains, etc. En Afrique, l'augmentation de l'utilisation des pesticides en Afrique est absolument faramineuse depuis la fin des années 2000.
Le Brésil reste l'importateur majoritaire de ces produits qui continuent à être produits en Europe et qui sont exportés vers les pays en développement. On peut imaginer que ça changera avec Lula, mais sous Jair Bolsonaro, plus de 10 000, c'est ça, pesticides ont été autorisés.
Oui, c'est les chiffres sont absolument faramineux. Effectivement, Jair Bolsonaro était le président des milieux agro-industriels et agroalimentaires brésiliens.
Bolsonaro mis sur le marché de 1700 nouveaux pesticides. Voilà, pas 10 000, mais c'est énorme. Et on sait par ailleurs que Lula n'a pas toujours été très rigoureux sur les pesticides non plus. Aujourd'hui, il promet d'être plus exemplaire. On verra bien. Alors, vous parliez, Stéphane Foucard, de cette loi Egalim entrée en vigueur là, au début de l'année, en 2022. C'était à l'époque une mesure qualifiée d'exemplaire, interdire les exportations de produits phytosanitaires. Aujourd'hui, 12 mois plus tard, si on devait faire un bilan chiffré, interdiction d'exportation, ça veut dire zéro tonne. Est-ce que le compteur est resté à zéro de ces exportations?
Il y a plusieurs milliers de tonnes qui ont été exportées de France, uniquement de France. Et encore une fois, en capitalisant en quelque sorte sur cette faille réglementaire qui permet d'exporter les matières actives pures quitte à ce qu'elles soient reformulées dans les pays importateurs. Donc plusieurs milliers, je crois 7000 tonnes de mémoire à vérifier.
7400, c'est ça.
Voilà, c'est considérable. Quoi.
On entendra tout à l'heure l'ONG Public Eye qui a mené l'enquête et qui a chiffré à 7400 tonnes la quantité de pesticides interdites sur le sol européen mais vendues à l'export cette année en 2022. 7400, il faut quand même mettre ce nombre en perspective. Combien de tonnes par an avant la loi Egalim à peu près?
Alors ça, je n'ai pas le chiffre en tête, mais pour avoir un ordre de grandeur pour comparer, hein, en France, par exemple, aujourd'hui, c'est environ 50 000 tonnes de produits qui sont utilisés chaque année par les agriculteurs dans l'environnement, en comptant uniquement donc, les pesticides, c'est-à-dire les fongicides, herbicides et insecticides.
Vous parliez des failles dont les industriels se servent pour continuer à exporter. Par ailleurs, est-ce que certains d'entre eux se sont délocalisés depuis la loi Egalim pour produire ailleurs, pour échapper à cette réglementation française?
Alors c'est très difficile de le savoir parce qu'il y a un secret industriel qui est étroitement maintenu par les chimistes. Donc c'est assez difficile finalement de savoir dans quelles unités de production sont produits tel et tel produit. D'autant plus que la chimie, c'est une science complexe, hein, et il y a souvent des précurseurs qui sont produits à tel endroit, puis reformulés ou exportés ailleurs pour être reconditionnés. Enfin, c'est assez opaque. Et il est très difficile d'avoir des informations précises sur le sujet.
On demandera tout à l'heure au chercheur de Public Eye s'il en a, puisqu'il a enquêté notamment en Allemagne à l'époque. Donc, enfin, à l'époque, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, la France a pris cette décision d'interdire les exportations après des révélations sur le scandale de l'atrazine, ce perturbateur endocrinien banni en raison de la pollution des nappes phréatiques, mais exporté depuis la France par le géant que vous citiez tout à l'heure, le géant Syngenta. On demande aujourd'hui une harmonisation à l'échelle européenne. Quand je dis « on », ce sont notamment des parlementaires européens. On a entendu en tout début d'émission la députée Michèle Rivasi. À Bruxelles, la Commission européenne a souvent l'occasion d'agir, notamment ce règlement REACH sur les produits toxiques nocifs qui avait fait grand bruit en 2007 quand il était entré en vigueur. La Commission européenne a au fil du temps révisé ce règlement. Elle l'a encore fait tout récemment, en octobre dernier, une nouvelle fois. Est-ce qu'elle prend en compte les voix qui s'élèvent pour demander d'interdire l'exportation des produits toxiques depuis toute l'Union européenne et pas seulement de la France?
Alors quand on parle de l'Union européenne, c'est assez compliqué en fait de pointer vers telle ou telle institution en particulier, que ce soit la Commission, le Parlement ou le Conseil. Hein. On remarque quand même souvent, ces dernières années, que la Commission européenne, donc l'exécutif européen, est beaucoup plus allant sur ces sujets que les États membres. Et en l'occurrence, par exemple, dans le cadre du Green Deal, hein, du pacte vert d'Ursula von der Leyen, il y a une réglementation, alors, ce qu'on appelle la réglementation SUR, hein, sur l'usage durable des pesticides, qui est une réglementation très ambitieuse, qui a été portée par la Commission et qui prévoit une réduction de 50% des usages et des risques, hein, selon l'expression, des pesticides en Europe à l'horizon 2030, et que ce sont les États membres qui freinent des quatre fers. Donc ce n'est pas la Commission européenne qui est debout sur le frein, c'est plutôt les grandes nations agricoles qui ne veulent pas qu'on touche au modèle dominant, tout simplement.
Vous voulez dire ça, c'est l'argumentaire de la Commission européenne pour justifier qu'il ne se passe plus grand-chose depuis quelque temps, ou c'est réellement le cas? C'est-à-dire c'est vraiment les États membres qui bloquent et pas la Commission?
Il y a un exemple très simple, c'est que ce règlement SUR, là, ce règlement qui vise à réduire de moitié l'usage des pesticides en Europe à l'horizon 2030, eh bien, ce samedi, là, il va être mis en discussion au Conseil des ministres de l'Union européenne et une majorité d'États membres demande à la Commission de réaliser une deuxième étude d'impact pour être sûr que ça ne va pas réduire dans de trop grandes proportions la production agricole européenne. Étude d'impact qui va prendre plusieurs mois, manifestement, si elle est validée. Et au terme de ces mois qui vont s'écouler, la procédure, il est possible qu'elle n'aille pas à son terme. Et que dans cette mandature, c'est-à-dire avant les prochaines élections européennes, eh bien, ce règlement ne puisse pas être adopté. Et donc on voit que là, c'est vraiment les États membres qui freinent la volonté de la Commission de changer les choses.
Et en attendant, est-ce que les subventions à l'agriculture classique, donc les subventions européennes type PAC en particulier, est-ce qu'elles sont indexées, est-ce qu'elles sont en rapport avec la quantité d'intrants chimiques utilisés, histoire d'agir sur plusieurs fronts? Est-ce que la Commission européenne agit sur ce levier-là?
Alors les questions de subventions agricoles sont extrêmement tendues, elles font l'objet de discussions extrêmement tendues au niveau européen entre les États membres et la Commission, au point que la Commission s'est finalement accordée avec les États membres pour que chacun ait une marge d'interprétation, une marge de manœuvre très large dans la définition des activités agricoles qui vont être effectivement subventionnées. Ce qui est sûr, par exemple, c'est que dans l'état actuel, la PAC 2023-2027 n'est pas dimensionnée pour changer en profondeur le modèle agricole dominant. Elle ne va pas changer les équilibres. Quand je vous disais que ce sont plutôt les États membres qui freinent des quatre fers, le plan stratégique national de la France, c'est-à-dire le plan qui va permettre d'appliquer la PAC à la situation française, un plan qui est défini par le gouvernement français, il a été envoyé une première fois à la Commission, qui l'a retoqué parce qu'il n'était pas suffisamment ambitieux et il soutenait pas suffisamment les objectifs de réduction des intrants et de, disons, les objectifs de transition vers des modèles un peu plus agroécologiques.
Et le moratoire, alors, ce moratoire décrété d'abord partiellement en 2013 à l'échelle européenne, puis moratoire complet en 2018 sur les principaux néonicotinoïdes, donc là on parle vraiment de quelques marques ou quelques produits spécifiques, est-ce qu'il est aujourd'hui respecté par tous les États membres qui freinent des cas de fer, vous le disiez, sur d'autres sujets, mais sur celui-ci, sur les plus dangereux des néonicotinoïdes, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ?
Alors déjà, ce qui est intéressant de remarquer à propos de ces fameux néonicotinoïdes, dont on a beaucoup parlé à propos des abeilles, de la biodiversité, plus qu'à propos de questions de santé, et d'ailleurs, il faut rappeler quelque chose de très important, puisque là, c'est la COP15, on parle beaucoup de biodiversité, il n'existe aujourd'hui en Europe aucun critère qu'on appelle des cut-off critères, des critères guillotine, qui interdit la mise sur le marché d'un pesticide pour des raisons environnementales. Les seules raisons qui induisent l'absence d'autorisation de mise sur le marché à un pesticide, ce sont des critères sanitaires pour les hommes, si ces produits sont cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques ou perturbateurs endocriniens, donc s'ils ont un effet allégué sur les humains, eh bien ça peut être en fonction du niveau de preuve un critère d'interdiction, où là on n'essaye même pas d'évaluer les risques on interdit. Alors que sur les questions environnementales, comme par exemple les néonicotinoïdes, il n'y a pas de critères d'interdiction. Et donc, ce moratoire de 2013, il est arrivé après une accumulation absolument phénoménale d'études dans tout genre qui ont placé, disons, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, qui est l'agence d'expertise européenne qui statue sur ces questions, dans une sorte de situation où ils ne pouvaient plus ignorer les dégâts de ces produits. Et ça a conduit à ce fameux moratoire, donc, qui a conduit à l'interdiction en 2018. Est-ce qu'il est respecté ? Pas vraiment. Il y a en permanence, chaque année, des centaines de demandes d'autorisation qu'on appelle d'urgence, c'est-à-dire de dérogations qui sont accordées à ces produits pour qu'ils puissent être autorisés. Et c'est notamment le cas depuis 2 ans et demi en France avec la betterave qui, de nouveau, réutilise des semences enrobées avec ces fameux imidaclopride, thiamethoxam, clothianidine et autres.
Dérogations qui ont fait l'objet d'un vote au Parlement français et la députée Delphine Bateau avait à l'époque expliqué les raisons de son opposition.
Cette loi qui réhabilite les néonicotinoïdes, qui sont un poison, qui sont 7000 fois plus toxiques que le DDT qui a été interdit il y a 50 ans, qui tue les abeilles, les papillons, les vers de terre, les oiseaux, dans un contexte où en France, dans nos campagnes, on a 85% de population d'insectes en moins, un tiers des oiseaux des champs en moins, tout ça en 20 ans, 15 ans. Donc c'est monstrueux en fait ce qui est en train de se passer. Et que dans ce contexte-là, on demande au Parlement de prendre la décision délibérée, volontaire, en toute connaissance de cause, de remettre du poison sur 400 000 hectares en France, dont on aura encore les conséquences dans 20 ans. C'est monstrueux, en fait.
Stéphane Foucart, la France avait promis que ces dérogations pour les néonicotinoïdes seraient réservées à la betterave qui avait en 2020 souffert de la jaunisse transmise par un puceron. Est-ce que la France a tenu sa promesse ? Cette dérogation a-t-elle été étendue ? Les producteurs de maïs, à un moment, disaient nous aussi, on veut une dérogation.
Non, à ma connaissance, la dérogation en est restée à la betterave. Est-ce qu'elle va durer uniquement 3 ans, comme ça a été dit, ou est-ce qu'elle sera encore prorogée ? Je ne sais pas. Mais autant que je le sache, non, aujourd'hui, c'est uniquement la betterave qui bénéficie, entre guillemets, de ces dérogations.
Et la jaunisse, elle a disparu ou pas ? Le puceron vecteur de jaunisse, il est devenu quoi ?
C'est un sujet de débat. Il y a eu des protestations de chercheurs de l'INRAE qui prétendaient que, à mon avis à juste titre d'ailleurs, que la dernière année de dérogation qui a été accordée à ces produits n'était pas justifiée par la pression parasitaire. Bon, à voir avec les rendements qui sortiront cette année.
Alors, vous disiez tout à l'heure, Stéphane Foucart, et juste un petit mot pour la la filière de la betterave, c'est que 45 000 emplois, je crois, étaient en jeu et que les industriels avaient beaucoup pesé pour sauver la filière sucrière française qui se sentait en péril. Vous disiez tout à l'heure qu'aujourd'hui, les lois prises ou les décrets d'interdiction pris par la Commission européenne en matière de produits phytosanitaires ne sont jamais décidés sur la base d'études qui concernent la biodiversité. C'est toujours sur des questions de santé humaine qui prévalent, mais jamais de biodiversité. Aujourd'hui, pourtant, les études existent. Alors certes, elles font toujours l'objet de débats dans toutes les revues scientifiques encore aujourd'hui, mais ne serait-ce que la revue Nature a publié une énorme enquête en 2018, je crois, sur ce sujet. Bon, bref, en tout cas, la science avance. La Commission européenne, elle, et les industriels qui sont obligés de soumettre leurs produits à des tests, aujourd'hui, sur quelle étude se base-t-ils pour dire non, par exemple, l'abeille ne souffre pas de nos produits ?
Alors c'est une question qui est à la fois très vaste et très complexe. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre dans ces histoires, c'est que on ne tient pas compte prioritairement de la science au sens où on l'entend, c'est-à-dire au sens des connaissances qui sont publiées dans des revues scientifiques après évaluation par les pairs. On ne tient pas tant compte de la science quand on juge de la nocivité d'un produit, d'un pesticide, qu'en fonction du dossier réglementaire qui a été apporté par le fabricant. Donc il faut bien avoir ça à l'esprit, c'est que vous êtes Bayer ou Syngenta ou Monsanto ou peu importe, vous voulez commercialiser un nouveau pesticide, eh bien c'est à vous qu'incombe de réaliser les études qui vont permettre à votre produit d'être mis sur le marché. Et ces études, elles sont réalisées selon des cahiers des charges extrêmement stricts. Hein. Donc on a, par exemple, quand on cherche à identifier la cancérogénicité d'un produit, eh bien on doit faire une expérience sur X rongeurs de telle souche dans un laboratoire où les conditions sont maintenues dans tel et tel état, où on doit au cours duquel on doit relever tout un tas d'informations sur les animaux, etc. Donc tout ça est très cadré, très encadré, etc. Maintenant, le diable, évidemment, il est dans les détails. Et la faculté que le régulateur a de juger de la toxicité d'un pesticide, par exemple pour les abeilles, pour les bourdons, pour les papillons, etc., est très complexe. Parce que les études qui sont publiées dans la littérature scientifique, la science, hein, ne rentrent pas dans les cases réglementaires. Donc c'est difficile de dire pour le régulateur, ce produit, eh bien, on va l'interdire parce qu'il est mauvais sur les abeilles. Mais mauvais sur les abeilles, ça veut dire quoi ? En fait, c'est compliqué.
Mais là, il y a vraiment des chiffres. D'ailleurs, des études qui ont été menées par l'Union européenne ou commandées par l'Union européenne et par les industriels, puisque c'est à eux, vous le disiez, qu'incombe de mener ces études. Alors, qui disent quoi ? Sur les abeilles, précisément, il y a des chiffres qui ont été, des sortes de seuils qui ont été plus ou moins fixés en disant, en deçà de ce seuil, les abeilles n'en souffrent pas.
Alors, il y a une réforme en cours, mais qui arrive très tardivement, hein, parce qu'on est déjà dans une situation de catastrophe absolue en termes de... Enfin, c'est quelque chose dont les gens n'ont pas forcément conscience, mais il suffit d'avoir un peu plus de 45 ou 50 ans pour bien se rendre compte que quand on prend la voiture, il y a beaucoup moins d'insectes sur le pare-brise. Pas un peu moins d'insectes, c'est énormément moins d'insectes. Donc c'est quelque chose déjà qui est assez frappant. Donc il y a en ce moment en cours une révision de ces fameux tests réglementaires pour qu'on puisse enfin décider de qu'est-ce que ça veut dire un produit néfaste pour les abeilles, les bourdons, etc. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Et jusqu'à présent, on en était finalement... on devait s'en remettre finalement à des études qu'on appelle rétrospectives où on regarde ce qui s'est passé dans l'environnement et on dit à tel endroit on a eu des dépopulations d'abeilles importantes, on a utilisé tel produit autour, bon, on a des suspicions qu'il y a un lien de cause à effet entre le produit et la dépopulation de ces ruchers, mais c'est très difficile de le démontrer et en fait en réalité, même d'un strict point de vue scientifique, c'est impossible, on ne peut pas refaire l'expérience. On n'est pas au laboratoire, on est dans la nature, on est dans l'environnement. Et donc, c'est difficile de venir après l'introduction d'un produit pour dire « regardez les dégâts que ça a fait sur la biodiversité ». C'est très complexe. Et donc, c'est en amont qu'il faut agir, c'est au moment de l'autorisation.
Ne serait-ce que quand on fait ces études, on injecte parfois une petite dose comme ça de pesticides à une abeille, ou, enfin, schématiquement, hein, c'est à peu près ça, alors que ces abeilles, est-ce que ça existe encore des pesticides qu'on pulvérise comme ça une fois et qui finit par disparaître ? Les néonicotinoïdes, aujourd'hui, agissent complètement différemment, Stéphane Foucard.
Oui, alors ça, c'est une histoire très intéressante parce que ça, elle est passée un petit peu sous le radar de tout un tas de communautés scientifiques qui sont intéressées par la biologie de la conservation, hein, ce dont on parle en ce moment à la COP15, hein, c'est-à-dire comment conserver la nature. Et il y a eu, à la fin des années 90, au début des années 2000, une révolution dans la manière de protéger les cultures contre les insectes qui était permise par ces nouveaux, ces fameux néonicotinoïdes, qui consiste à enrober les graines du produit. Et les graines, alors nous on a tous l'image de graines qu'on sème qui ont l'air de graines, en réalité la réalité n'est plus du tout celle-là. Les graines sont enrobées d'une résine toxique et la plante s'imprègne tout au long de sa vie de ce toxique et devient insecticide, et tous les tissus de la plante, hein, des racines aux tiges en passant par le pollen et le nectar s'il y en a, est imprégné de faibles doses de ce toxique. Et donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a traité préventivement des millions d'hectares de grandes cultures, et on le fait toujours par exemple aux États-Unis. On traite préventivement des millions d'hectares de grandes cultures qui deviennent insecticides. Et donc en fait, on crée en quelque sorte des paysages insecticides. Et donc, quelque part, ce n'est pas très étonnant de voir que dans les pays où l'agriculture a été très mécanisée, qu'elle est très dépendante des intrants comme les pesticides ou les engrais de synthèse, eh bien, on a des effondrements de populations d'insectes absolument phénoménaux.
On ne se lasse pas de les regarder. Il y a vraiment des ondes qui passent quand on aime les abeilles, quand on est fasciné par leur organisation. Et c'est vraiment un spectacle magique. C'est la vie, quoi. C'est vraiment de toute beauté. Si c'était à refaire, je crois que même avec tous les problèmes et les déboires qu'on a pu avoir, avec ces problèmes d'insecticides tout particulièrement, ben je recommencerais.
Des ruches qui sont sorties des forêts de châtaigniers parfaitement saines et qui ont produit tout à fait normalement, eh bien ces ruches-là vont perdre au bout de 4-5 jours de butinage sur les tournesols traités à peu près le tiers de leur population, toute leur butineuse.
C'était Franck Alétru, président du syndicat national de l'apiculture, et ce sont toujours eux les apiculteurs qu'on écoute, qu'on entend quand il s'agit de parler de la disparition des insectes, de la disparition des pollinisateurs, de la disparition de cette biodiversité de nos campagnes. Stéphane Foucard, aussi parce que eux sont concernés en tant qu'humains et puis aussi parce qu'ils sont très forts pour nous raconter leurs histoires, histoires par ailleurs très importantes, mais quand on évoque les menaces qui pèsent sur toutes les espèces, voire leur progressive extinction, quelles sont les dernières études scientifiques en date qui ont attiré votre attention sur les espèces qui vivent autour, au-dessus ou dans les milieux agricoles et qui ne sont pas que les abeilles?
Alors par exemple, il y a une étude très importante qui a été publiée dans la revue Nature en 2019 qui montre, alors c'est une étude prospective, c'est-à-dire qu'en fait c'est une étude qui n'a pas les faiblesses de ces études rétrospectives où on regarde ce qui s'est déjà passé et on essaye d'analyser ça avec ce qu'on peut. Là c'est une étude prospective donc qui a été définie en 2007 avec tout un ensemble d'une centaine de prairies en Allemagne qui ont été échantillonnés régulièrement et sur lesquels les chercheurs sont allés prélever des arthropodes, alors tous les arthropodes, c'est-à-dire pas uniquement les insectes, on parle beaucoup des insectes, mais les arthropodes, c'est-à-dire les myriapodes, les mille pattes, les araignées, voilà, tout ce qui rampe et tout ce qui est un petit peu, tout ce qui grouille, quoi, on va dire. Et les chiffres auxquels parviennent ces chercheurs allemands est absolument effrayant. Entre 2007 et 2017, à peu près une décennie, hein, on a perdu 78% de la biomasse, donc la biomasse du poids, hein, des animaux capturés, dans ces 150 prairies allemandes. 78% de la biomasse qui s'effondre, c'est absolument vertigineux. Et ce sont des chiffres qui sont cohérents avec ce qu'on a par ailleurs. Hein. Tout à l'heure, Delphine Bateau a cité cette étude également allemande, qui a été publiée en 2017 et qui montrait que 75% des insectes volants avaient disparu. Encore une fois, on parle d'insectes au poids, là, on ne fait pas de discrimination sur les espèces. 75% des insectes volants avaient disparu d'une soixantaine de zones protégées allemandes, des zones protégées qui sont insérées bien évidemment dans des paysages agricoles entre 1989 et 2016. Il y a d'autres travaux qui vont dans le même sens et qui montrent qu'on a vraiment un très grave problème avec l'effondrement de toute l'entomofaune. Une autre étude qui vient d'être publiée au Royaume-Uni a montré une baisse de 60% entre le début des années 2000 et 2021. Donc au cours des 20 dernières années, 60%. Et là, c'est encore une étude sur des insectes volants. C'est une étude très intéressante et très originale qui a consisté à équiper des voitures d'automobilistes de petits écrans qui permettent de compter le nombre d'impacts d'insectes moyens par kilomètre parcouru en fonction de l'endroit où on se trouve, de la vitesse à laquelle on va, etc.
toujours le révélateur du pare-brise.
Exactement, dont vous parliez tout à l'heure. Le révélateur du pare-brise, qui est aussi un instrument de recherche scientifique. Donc 58% entre 2004, de mémoire, 2003 et 2021.
Une étude menée par le CNRS en 2018 établissait que les oiseaux des champs avaient perdu 30% de leur population sur les 15 dernières années. On parle de bergeronnettes printanières, des tourneaux, d'alouettes des champs, avec toutes les conséquences que cela implique. On sait combien ces insectes et ces oiseaux assurent de services à la nature, des services notamment agricoles. Ce sont des auxiliaires de l'agriculture qui disparaissent. Stéphane Foucard, j'étais très surprise d'une étude menée par l'équivalent du GIEC de la biodiversité, donc une plateforme intergouvernementale, qui dit que cette pollinisation assurée par les insectes et par le vent a une valeur monétaire et qui a chiffré cette valeur.
Oui, c'est des valeurs qui sont absolument phénoménales. C'est plusieurs centaines de milliards d'euros ou de dollars à l'échelle de la planète. Donc oui, évidemment, ces petites bêtes nous rendent énormément de services. Cette biodiversité commune, en quelque sorte, nous rend énormément de services. Et c'est quelque chose, bizarrement, qui reste une sorte de point aveugle de la conversation publique autour de la biodiversité. Quand on écoute un petit peu la manière dont nous autres, les journalistes, mais aussi les diplomates ou les scientifiques qui participent aux différentes COP, la Convention sur la biodiversité, la COP 15 en ce moment, on voit que il y a beaucoup de discussions qui sont axées sur le fait de sanctuariser des territoires, 30% de la planète qu'il faut protéger, sur les océans où on veut mettre en place des aires marines protégées, ce qui est très important et utile, mais ce qui est très loin d'être suffisant, parce que chez nous, c'est-à-dire quand on ne parle pas de l'érosion d'espèces emblématiques, des grands mammifères africains ou asiatiques, chez nous, ce qui se passe, c'est l'érosion de la biodiversité commune. Chez nous, c'est les mouches qui disparaissent. Enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu l'idée. Et toute cette biodiversité commune, elle nous rend des services considérables. Et donc, de ce point de vue-là, la lutte pour la protection de la biodiversité, ce n'est pas une lutte pour conserver un patrimoine qui nous est agréable. Ce n'est pas le tigre du Bengale ou ce n'est pas le lion africain, etc. C'est vraiment cette biodiversité qui nous permet de vivre et qui nous rend une quantité insoupçonnée de services.
Sauf que toutes ces études qui sont menées pour dire voilà, les populations d'oiseaux, d'insectes disparaissent, elles ont du mal aujourd'hui, c'est même impossible, de définir vraiment les causes de cet effondrement. Comment savoir ce qui relève des changements climatiques, des parasites, de la bétonisation environnante, de l'utilisation de pesticides, et on en revient à notre sujet, comment les industriels aujourd'hui profitent aussi de ces failles-là pour continuer à vendre leurs produits et à essayer de convaincre l'Union européenne qu'il serait pour eux complètement délirant d'arrêter ces ventes.
Bien sûr, il y a toute une stratégie industrielle qui remonte à loin, qui remonte au milieu du XXe siècle et qui a été inventée par les industriels du tabac, qui consiste à financer, à mettre en avant, à promouvoir toutes les études qui cherchent des causes alternatives aux maux dont votre produit est accusé. Et donc, par exemple,
causes alternatives qui existent, en l'occurrence pour la biodiversité.
Bien sûr. Il y a évidemment une diversité de causes qui induisent la perte des insectes. Il y a la perte des habitats. Il y a le fait qu'effectivement, on rase des haies. Il y a le changement climatique. On a vu cet été que ça avait eu un impact considérable sur la biodiversité commune en Europe. Il y a tout un tas de causes alternatives qui effectivement ont un effet. Mais le fait de les mettre systématiquement en avant est aussi un argument qui permet de dédouaner les effets qui, là, pour le coup, sont incontestables de l'utilisation de la chimie en agriculture, en tout cas de l'utilisation telle qu'on... les produits tels qu'on les emploie aujourd'hui, c'est-à-dire de manière préventive, de manière un petit peu indiscriminée.
Vous aviez en 2021, pour le journal Le Monde, eu accès à des documents internes du comité des organisations professionnelles agricoles de l'Union européenne qui réagissaient à ce volet dont vous parliez tout à l'heure, le volet agricole du pacte vert européen, le plan de la fourchette, comment ça s'appelle, de la ferme à la fourchette,
Farm to Fork,
qui doit à terme diminuer au moins de 50% l'utilisation de pesticides et de produits phytosanitaires sur le sol européen. Et donc ces professionnels avaient réagi, vous aviez eu accès à des documents en disant qu'ils allaient se battre contre ces mesures-là. Quels arguments veulent-ils déployer contre ce programme spécifique de la ferme à la fourchette?
Alors ce sont des arguments qui sont toujours les arguments axés sur la production. C'est-à-dire qu'effectivement, à brève échéance, à court terme, si on se passe de ces produits, on va perdre en production. On va perdre, alors ça dépend des cultures, ça dépend de tout un tas de choses. C'est très compliqué de donner un chiffre, général et moyen. D'ailleurs, c'est ce qu'eux font d'ailleurs en général pour plaider leur cause. C'est très difficile de donner un chiffre, mais il est évident que la production va baisser. Et eux, ce qu'ils disent, c'est que tout simplement la puissance exportatrice, hein, c'est-à-dire la puissance des États européens qui se mesure aussi à la balance, à leur balance commerciale, eh bien, va être affectée et on va se retrouver à importer des produits qui auraient été produits dans des conditions à la fois sanitaires et environnementales inférieures à ce qu'on faisait en Europe. Donc l'argument qui est celui du COPACOGECA, enfin des syndicats de l'agro-industrie, l'argument c'est de dire on met la barre trop haut chez nous, au risque de devoir finalement importer des produits de moins bonne qualité.
Tiens. Mais c'est un argument qui repose d'ailleurs sur un rapport publié il y a un an par le Joint Research Center, qui est une institution d'expertise qui dépend de la Commission européenne et qui modélisait les conséquences possibles de ce plan en disant que ce plan de la ferme à la fourchette allait diminuer en volume de 10 à 15% la production agricole européenne et qu'on allait importer et que ça allait faire augmenter les émissions de gaz à effet de serre.
Alors toutes ces questions-là, elles sont piégées pour une raison très simple, elles sont piégées parce que derrière des considérations agronomiques de production avec des chiffres, des volumes produits ou pas produits d'ailleurs, il y a évidemment l'intrication extrêmement intime avec des questions socio-économiques. Alors oui, probablement on va produire un petit peu moins. Mais ça, c'est sur le court terme. À long terme, il est certain qu'on maintiendrait, une indépendance et une qualité de production qu'on perdra très certainement si on continue à utiliser les intrants au niveau où on les utilise aujourd'hui. Mais surtout, il y a tout un tas de mesures socio-économiques qu'on peut prendre pour corriger ça. Et par exemple, le rapport du JRC, qui était simplement un rapport quantitatif, qui ne proposait pas de telles mesures correctives, eh bien, il est tout à fait possible et envisageable de mettre en place des mesures qu'on appelle des mesures miroirs, qui permettent de s'assurer que les produits qu'on va importer ne dérogent pas aux règles que nous, on applique à notre propre production. Et en mettant en place ces mesures miroirs, eh bien forcément, on va moduler ce qu'on importe par rapport à ce qu'on exporte. Et quelque part, on rend un petit peu les choses plus vertueuses, à la fois chez nous, mais aussi chez nos partenaires commerciaux.
Avez-vous mesuré le temps ? Avez-vous mesuré le vent? Avez-vous mesuré la nuit, la vie? Viens avec moi, mon vieux pays. Le jour se lève, le vent nos rêves aussi. L'amour dans les champs, je veux faire l'amour des enfants qui se baigneront dans les rivières en oubliant. Viens avec moi, mon vieux pays. Le vent me rêve, le vent se lève aussi.
Viens avec moi, mon vieux pays, c'est un titre d'Émilie Loiseau de 2019. Émilie Loiseau qui, avec Cyril Dion, a choisi de soutenir l'appel des coquelicots pour l'interdiction de tous les pesticides de synthèse. C'est le dernier volet de notre série dans Culture Monde consacrée aux limites de la protection de la biodiversité à l'occasion de la COP15 biodiversité qui s'est ouverte hier à Montréal. Nous sommes toujours avec notre invité, le journaliste Stéphane Foucart. Nous avons décrit les mesures prises par l'Union européenne pour bannir les pesticides et autres produits phytosanitaires à moyen terme, les failles, voire les hypocrisies de ces engagements, les produits interdits sur le sol européen mais qui continuent à être produits et exportés avec des conséquences à l'autre bout de la chaîne dans les pays qui importent.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
We realize that we, Syngenta,
nous réalisons que nous, Syngenta, devons écouter les agriculteurs, les entreprises du secteur alimentaire, les distributeurs, les ONG et les autorités gouvernementales dans une conversation ouverte au sujet de l'agriculture durable et de la meilleure manière de travailler ensemble en bonne intelligence. On va faire de ce moment d'écoute un engagement et continuer à aider à faire du monde un meilleur endroit pour nos enfants, nos petits-enfants et les innombrables générations à venir.
C'est le numéro un mondial des pesticides et une de ces multinationales qui peuvent continuer à produire et vendre leurs produits en dehors de l'Union européenne, Syngenta, et qui continue à vendre à l'extérieur puisque les pays émergents fondent leur développement économique sur l'exportation de denrées alimentaires et sont pour ce faire grands consommateurs de pesticides et d'herbicides qui leur permettent d'augmenter les rendements, même si cette agricultrice brésilienne les utilise sans trop savoir où cela mène.
Je ne peux pas faire grand-chose, car il faut bien continuer à vivre et à se nourrir. Mais c'est sûr que je n'ai pas confiance dans la qualité de notre sol et de notre sous-sol. Je me méfie de notre eau et même de l'air qu'on respire. Partout où je vais, je me dis que je suis sans doute en train d'être contaminée.
Bonjour Laurent Gabrel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes expert agriculture alimentation chez Public Eye, qui est une ONG suisse qui suit à la trace les multinationales dont le siège est en Suisse et qui ont des intérêts dans les pays pauvres. C'est ainsi que vous avez observé les faits et gestes de Syngenta, numéro un mondial des pesticides. Si cette entreprise ne peut plus vendre ses produits sur le sol européen, à qui les destine-t-elle aujourd'hui? Qui sont ces marchés, comme on dit aujourd'hui?
Bon, le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Argentine et d'autres pays émergents qui ont des réglementations beaucoup plus faibles qu'en Europe et qui continuent d'utiliser massivement des pesticides qu'on a interdits chez nous.
Notamment les plus dangereux. Vous concluez dans un de vos rapports que l'entreprise a réalisé tout son modèle d'affaires autour des plus dangereux de ces pesticides.
Alors, pas tout son modèle d'affaires, hein, mais nous, on a pu accéder il y a quelques années à des données de vente de l'industrie, des données confidentielles qui montraient qu'à peu près 40% du chiffre d'affaires de Syngenta était fait avec des pesticides qu'on appelle extrêmement dangereux, donc qui sont des tueurs d'abeilles ou des pesticides classés comme cancérogènes ou à la toxicité aiguë extrêmement élevée et puis qui sont pour la plupart interdits chez nous. C'est à peu près 40% du chiffre d'affaires, donc quand même des chiffres extrêmement importants.
L'entreprise se défend en disant qu'elle œuvre contre la famine dans le monde puisqu'elle permet aux agriculteurs de protéger leurs récoltes et de doubler leurs rendements. Ce serait aussi, d'après elle, un argument imparable contre la déforestation parce que si les rendements des terres agricoles sont élevés, nul besoin de couper les arbres pour étendre les parcelles. Est-ce que leurs produits ont déjà fait, comme en France pour Monsanto, en France et ailleurs, l'objet de scandales, de procès par des agriculteurs malades, par des paysans militants de la contre-révolution verte en Inde, par exemple, dont on parlait récemment dans Culture Monde? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des procès en cours dans les pays qui continuent à acheter ces produits-là?
Oui, ce qui est paradoxal, c'est que Syngenta, c'est le numéro un mondial du marché des pesticides, mais on en entend très peu parler des scandales auxquels ils font face. On parle beaucoup de Bayer, Monsanto et le glyphosate, mais il y a énormément de cas aussi liés aux pesticides de Syngenta. Le plus connu, en tout cas dans les cercles qui suivent la thématique, c'est le paraquat. Le paraquat, c'est un herbicide qui a été introduit par l'ancêtre de Syngenta en 1962. Donc ça fait déjà 60 ans qu'il est sur le marché. C'est un pesticide qui est extrêmement toxique en cas d'intoxication aiguë et qui a causé déjà des milliers de morts à travers le monde, surtout dans les pays en développement où les agriculteurs sont pas protégés et où les conditions d'utilisation sont extrêmement dangereuses. C'est aussi un produit qui peut provoquer la maladie de Parkinson en cas d'exposition sur le long terme. Alors récemment, il y a eu maintenant Syngenta fait face à toute une batterie de plaintes aux États-Unis. Il y a des centaines d'agriculteurs américains qui ont porté plainte contre Syngenta en lien avec la maladie de Parkinson, donc qui accusent la compagnie d'avoir caché les risques liés à une exposition chronique au paraquat, donc des gens malades du Parkinson, et qui accusent l'entreprise d'en être responsable. Ça, c'est vraiment la plus grosse plainte auquel fait face l'entreprise actuellement. Il y a eu aussi des cas légaux en lien avec l'atrazine. L'atrazine, qui est un autre herbicide que beaucoup de gens connaissent, qu'on connaît bien en Europe, parce que c'était vraiment le plus gros polluant de l'eau potable en Europe jusqu'à son interdiction en 2004. C'est aussi un perturbateur endocrinien. C'est-à-dire que le danger, c'est principalement exposition à travers l'eau potable des femmes enceintes, et ça peut créer des problèmes sur le développement des enfants et des déformations. On l'a interdit chez nous, mais Syngenta continue de le vendre dans énormément de pays à travers le monde, notamment au Brésil. Et là, de nouveau, aux États-Unis, ils ont fait face à des plaintes pour la pollution de l'eau potable, et ils ont dû en fait payer, dédommager les fournisseurs publics, les entreprises publiques qui fournissent l'eau potable. Ils ont dû les dédommager à hauteur de plusieurs centaines de millions pour en fait dépolluer l'eau et installer des filtres. Ils font face aussi à des plaintes d'apiculteurs en lien avec les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles au Canada.
Ou alors en Inde, contre les vagues d'empoisonnement liées au polo, cet insecticide qui avait en 2017 dans les champs de coton du centre du pays tué 23 personnes et rendu malade des centaines d'agriculteurs qui avaient utilisé du polo. Donc là encore, on était, comme disait Stéphane Foucart tout à l'heure, dans le cas de figure de procès qui aujourd'hui sont montés par des personnes qui sont tombées malades après l'utilisation de ces insecticides ou pesticides, et donc pour des raisons de santé plus que pour la préservation de la biodiversité. Si les pays émergents continuent à importer ces produits, pourquoi, d'après vous? Est-ce que c'est parce qu'en dehors de ces produits, pas de salut, la sécurité alimentaire avant tout? Est-ce qu'ils n'ont pas encore suffisamment évalué les risques? Ils savent quand même que l'Union européenne a interdit ces produits depuis plusieurs années.
Alors, c'est très compliqué, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui expliquent que ces pesticides dangereux, ils sont encore si massivement utilisés dans les pays en développement émergent. Un facteur principal, que ce qui est souligné par l'OMS et par la FAO dans toutes leurs enquêtes, c'est le manque de capacité et de ressources pour l'évaluation des risques, hein. Dans nos pays, on a des dizaines, voire des centaines de personnes qui sont chargées d'évaluer les dossiers soumis par les industriels. Dans la plupart des pays, surtout les pays à bas revenus, les pays pauvres en Afrique ou en Amérique du Sud, il y a très très peu de monde qui s'occupe de ce genre de dossier. Donc au final, ils se basent sur, ils prennent pour argent comptant ce que leur disent les industriels. Donc il y a peu de capacité à ce niveau-là dans l'évaluation des risques. Il y a aussi beaucoup beaucoup de pressions qui sont reçues, beaucoup de lobbying de la part de ces entreprises. Il faut savoir que c'est des secteurs qui sont des lobbies qui sont extrêmement puissants dans ces pays, et puis c'est très difficile pour les gouvernements sur place d'interdire des molécules même si elles le souhaitent. Il faut savoir que dans beaucoup de pays, y compris le Brésil, quand le gouvernement autorise une substance, elle est autorisée ad aeternam, entre guillemets. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réévaluation régulière qui est effectuée, contrairement à ce qui se passe dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, les substances, elles sont régulièrement réévaluées, et puis c'est le principal mécanisme pour leur interdiction. Oui. Dans la plupart des pays, ça n'existe pas.
Pour conclure, Laurent Gabrel, si la vente des produits de Syngenta est interdite aujourd'hui en Europe, est-ce qu'elle bénéficie néanmoins d'aides européennes ou d'aides plus locales en Suisse? Est-ce qu'elle est présente à Bruxelles dans les coursives de la Commission où se joue le lobbying industriel?
Maintenant, le principal enjeu en Europe, c'est effectivement d'interdire l'exportation des pesticides interdits, parce qu'il y a énormément de ces substances qui sont produites en Europe, y compris les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles, le paraquat ou l'atrazine. Ces trois substances emblématiques continuent d'être produites sur le sol européen et exportées, et puis du coup, à ce titre, elles bénéficient du soutien des États européens. Donc on essaye vraiment en ce moment de mettre fin à cette pratique. On a bon espoir que la Commission européenne arrive avec une proposition l'année prochaine.
Voilà, Syngenta qui exportait aussi depuis la France, mais qui s'est adaptée elle aussi à la loi Egalim en exportant des pesticides depuis d'autres territoires européens, et qui par ailleurs a été rachetée en 2017 par la Chine. Merci beaucoup Laurent Gabrel d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes expert agriculture alimentation pour l'ONG suisse Public Eye. On arrive à la fin de cette émission. Stéphane Foucart, le patron de Syngenta, Eric Firvald, appelait au printemps ni plus ni moins qu'à abandonner l'agriculture biologique parce qu'elle ne pourrait pas nourrir tout le monde. Et là encore, c'est étude contre étude. Est-ce qu'il y a des études scientifiques sérieuses aujourd'hui pour dire que le bio, la permaculture et tout ce qui permet aujourd'hui de relancer ou de réveiller un cycle de vie dans les sols peut produire suffisamment pour tout le monde?
Alors, dans cette question, il y a une sorte d'impensé qu'il faut absolument mettre en lumière, c'est la viande. C'est la consommation de viande. En réalité, il n'y a pas de bonne façon de répondre à cette question, est-ce que le bio peut nourrir la planète, sans poser la question de la consommation de viande. Aujourd'hui, en Europe, c'est plus que les deux tiers, hein, des terres arables qui est utilisée pour faire pousser des végétaux qui vont être mangés par des animaux, la plupart élevés hors sol, dans des conditions épouvantables et au prix de dégâts environnementaux type algues vertes, nitrates dans l'eau potable, etc. Et donc, le simple fait de diminuer un peu notre consommation de viande, pas énormément, mais de la diminuer sensiblement, résout le problème. Parce que tout d'un coup, on a des centaines, des millions d'hectares qui se libèrent pour faire pousser des plantes que les humains vont consommer directement. Et donc, en fait, la question, elle est totalement piégée parce qu'en réalité, c'est une question politique. Ça n'est pas une question technique, agronomique. C'est pas de savoir si est-ce qu'on peut techniquement produire. Non, la question, elle est de savoir est-ce qu'on veut continuer à manger deux fois par jour de la viande. C'est tout. Et si on mange une fois par jour de la viande, eh bien, ça change tout.
Merci Stéphane Foucart, ce sera votre mot de conclusion pour cette émission, la fin de la série consacrée toute cette semaine à la COP 15 biodiversité. Je rappelle Stéphane Foucart que vous êtes journaliste au service Planète Science au journal Le Monde, auteur de plusieurs livres dont Et le monde devint silencieux, comment l'agrochimie a détruit les insectes, paru en 2019 aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Tout de suite, c'est la revue de presse internationale.
France Culture. La revue de presse internationale, Adrien Toffelet.
Au Canada, Adrien, on parle justement de la COP 15 biodiversité. Les associations écologistes conseillent au gouvernement de se regarder dans un miroir.
Oui, plusieurs associations écologistes citées par le National Observer estiment qu'avant d'inciter le monde à faire plus pour sauver la faune et la flore mondiale, le Canada devrait d'abord s'investir réellement pour la cause. Pourquoi cette critique? Parce qu'avec la COP 15 qui se déroule depuis hier à Montréal, le sommet de l'ONU sur la biodiversité, l'occasion était trop belle pour Justin Trudeau pour ne pas faire des annonces et montrer au monde comment son gouvernement s'engage, comment il montre l'exemple dans son propre pays.
Canada will provide up to $800 million to support 4 major indigenous-led conservation projects across the country, covering almost a million square kilometers.
Le Canada, explique Trudeau, participera à hauteur de $800 millions à 4 projets de protection des territoires à travers le pays, gérés par les peuples autochtones et couvrant une zone de quasiment 1 million de mètres carrés. Alors de quoi s'agit-il précisément? Une enveloppe de $800 millions canadiens, soit un peu plus de $550 millions, promise sur les 7 prochaines années afin d'aider à atteindre l'objectif de 30% de territoires et d'aires maritimes protégées d'ici 2030 au Canada. Cette enveloppe sera gérée par les représentants des communautés autochtones. Un geste particulièrement symbolique dans ce pays où les nations autochtones ont été, on le sait, maltraitées et mises au banc de la société. C'est donc perçu par les chefs de la communauté interrogés par Radio-Canada et le Global Mail comme un pas significatif vers la réconciliation entre eux et le reste du pays. Eux qui revendiquent le droit de contrôler l'exploitation et la préservation de leurs territoires ancestraux. Dans les 4 zones annoncées par Justin Trudeau, ce sont les nations autochtones qui décideront quelles terres doivent être protégées, quelles autres doivent être développées et les premières populations concernées profiteront pour une fois des retombées économiques partagées entre tous. Mais c'est bien le seul point positif qui ressort de cette annonce pour les défenseurs de l'environnement, car comme le précise le journal de Montréal, ces aires seront protégées, mais elles pourront toutefois accueillir des exploitations. Les ressources naturelles qu'elles abritent, comme le nickel et le lithium, qui sert aux industries des transports pour la fabrication des batteries électriques, pourront être extraites et cela aura un coût pour la biodiversité. Un coût qui est déjà élevé dans le pays, la gestion des forêts par l'exécutif est régulièrement pointée du doigt. Le Devoir nous révèle que selon l'ONG américaine NRDC, le Canada est l'un des 3 pays qui déforestent le plus leurs forêts primaires et mettent donc à mal leurs écosystèmes fragiles et pourtant uniques. Le caribou notamment, animal qui est pourtant tant associé à l'imaginaire autour du Canada, est toujours menacé aujourd'hui par les industries forestières. Il est clair que pour ces associations écologistes, $800 millions sans garantie de l'arrêt des exploitations écocides, ça ne peut peut-être que de la poudre aux yeux.
Direction la Norvège, Adrien, avec là-bas aussi une polémique McKinsey qui s'invite au plus haut niveau de l'État.
Oui, sauf qu'en Norvège, le problème ne porte pas sur le recours au cabinet de conseil par l'exécutif, mais sur la présence, depuis quelques jours, d'un ancien de McKinsey au gouvernement. Christopher Turner était consultant associé au sein du cabinet de conseil mondialement connu, et la semaine dernière, son nom a été l'un des deux annoncés par le Premier ministre, Jonas Gahr Støre, pour rejoindre son équipe comme secrétaire d'État, donc comme conseiller communication auprès de lui. Sa nomination n'est pas passée inaperçue, elle a tout de suite suscité de vives critiques dénonçant un mélange des genres. C'est un problème qu'un homme qui a travaillé potentiellement avec les plus grandes entreprises du monde, on ne sait pas lesquelles, c'est soumis au secret professionnel, occupe à présent un poste aussi proche du chef du gouvernement. En particulier lorsque le Premier ministre en question explique le Dagsavisen et l'Aftenposten a été l'un des plus vifs opposants à ces pratiques il y a quelques années, quand Jonas Gahr Støre était le chef du parti travailliste en 2014 et le premier opposant, il avait lui-même dénoncé le passage de ministre du privé au public et du public au privé, des pratiques écœurantes, disait-il à l'époque. La situation néanmoins va rapidement s'éclaircir car le gouvernement Støre a finalement demandé à McKinsey de sonder les entreprises qui ont été accompagnées par Christopher Turner pour savoir si elles veulent bien se prêter à cet exercice de transparence. L'une d'elles a rapidement accepté, Telenor, la plus grande entreprise de télécommunications de Norvège, puis a suivi Amedia, deuxième plus grand groupe de médias de Norvège, qui a des parts dans plus de 50 journaux et sites d'information. Reste, selon TV2, une seule entreprise qui serait un groupe étranger et de e-commerce. Que compte faire le gouvernement une fois la liste définitive connue ? Rien, pas de retour en arrière. Christopher Turner reste, mais l'exécutif promet qu'il ne travaillera jamais sur des dossiers liés à ces entreprises. Autrement dit, le mélange des genres pour le Premier ministre, c'est seulement quand ça concerne les autres.
Et puis ce matin, on découvre d'autres volets dangereux de la réforme du code pénal en Indonésie.
Oui, le texte approuvé mardi par le Parlement indonésien, qui doit entrer en vigueur dans 3 ans, une fois que le président Joko Widodo l'aura signé et le Conseil constitutionnel validé. Ce texte a bien d'autres passages qui posent problème. On a beaucoup parlé de ses conséquences sur les mœurs et l'organisation des familles dans le pays, avec l'interdiction du sexe hors mariage et du concubinage, qui pourront être pénalisés de 6 mois à 1 an de prison. On attend encore de savoir dans quelle mesure les touristes seront concernés. La presse australienne, qu'il l'appelle de façon familière la Bali Bonkin Ban, l'interdiction de baiser à Bali, nous fait savoir que Canberra a même demandé à l'Indonésie des précisions sur le sujet, car Bali est une destination très prisée des vacanciers australiens. Il y a donc, disais-je, d'autres mesures liberticides, nous informe The Conversation et la BBC, qui ont épluché le nouveau code pénal, 17 articles qui menacent gravement les libertés publiques. On peut citer des restrictions autour des pratiques religieuses, hors islam, qui pourrait faciliter les persécutions contre les minorités religieuses. La liberté de manifester est également maltraitée, avec la criminalisation des participants à une manifestation non déclarée, ou encore la criminalisation des insultes aux représentants de la loi, aux élus, dont le président et les membres du gouvernement, ainsi que la criminalisation de tout ce qui contredit la Pancasila, la philosophie de l'État indonésien. Il n'est pas précisé ce qui sera considéré comme une insulte au président, ni ce qui sera une atteinte au Pancasila, ce qui fait craindre aux militants des droits de l'homme une atteinte grave à la liberté de la presse et à la liberté d'expression, plus globalement en Indonésie.
Merci beaucoup, Adrien Toffolet.